Après-midi à tout le monde. Les cinq maladies qui rongent l'église de mon pays.
Les
grands thèmes qui nous réunissent depuis lundi. Après avoir vu au travers de la grande introduction, les raisons d'être ainsi que la motivation de cet enseignement. Nous avons abordé les seconds points qui nous a permis de commencer à étudier les maladies de l'église de mon pays. Et là, après avoir d'abord défini c'était quoi la maladie, juste pour qu'on se mette d'accord dans le contenu des concepts. Nous avons passé en revue 11 principes attachés à la maladie, 10 un jour, et puis en appendice, nous avons ajouté un autre. Et puis nous avons commencé à étudier les maladies. La première que nous avons appelée la maladie de Jéroboam et des fils de Skeva, qui avait affaire à la qualité de l'appel, à l'authenticité de celui-ci, et à la qualité de la relation avec Dieu. Et nous avons eu à étudier combien c'était nécessaire, important, d'avoir non seulement une relation qui commence, mais une relation qui reste. Nous avons d'un côté étudié les choses que Jéroboam a établies, et puis nous avons montré aussi les fils d'Eskeva prêts à utiliser un homme avec lequel ils n'étaient pas en relation. Et par la grâce de Dieu, nous sommes passés au travers de plusieurs choses qui nous ont aidés à savoir combien la relation était importante, même qu'il y avait la primauté de la relation sur les
services.
Et dans la suite, nous avons parlé d'une seconde maladie que nous avons appelée la maladie de fils d'Eli, mais numéro
1.
Et là, nous avons parlé de l'immoralité sexuelle. Au départ, nous avons établi les principes sur la sexualité selon Dieu et selon la Bible. Et puis après, nous avons placé 8 raisons pour lesquelles les gens s'adonnaient à l'immoralité sexuelle tout en étant dans les sacerdotes. Et puis hier, nous avons parlé de la troisième maladie que nous avons appelée la maladie d'Ozias. Et cette maladie, nous avons dit que c'était une maladie qui s'est montrée sous la forme de la difficulté à gérer la gloire. Nous avons montré combien Ozias avait bien commencé, s'attachant à Dieu, et à cause de cet attachement, comme une récompense, Dieu l'a fait prospérer. La prospérité venue de Dieu comme une récompense a malheureusement changé cet homme en mal. Et nous avons montré combien le mouvement de réveil qui a secoué cette nation. Dieu a utilisé des jeunes gens venant des coins périphériques, pas des grandes familles, et qui aimaient Dieu, assoiffés. Ils n'avaient pas d'autres ambitions que de voir le royaume de Dieu avancer. Et comme pour Ozias, Dieu a vu leur cœur, au-delà de leur soif de voir le royaume de Dieu avancer,
Dieu leur a accordé des choses qu'ils n'avaient pas demandé. Un peu comme Salomon qui avait simplement demandé la sagesse. À qui Dieu a donné un bonus. En disant, certes, je te donne la sagesse que tu as demandé. Mais en outre, je t'ajouterai des choses que tu n'as pas demandé. Richesse et gloire. Et ces choses se sont invitées dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes de Dieu. Et comme la Bible le dit dans 2 Chroniques 26, verset 16, lorsqu'il devint puissant, lorsqu'il devint influent, lorsqu'il eut la capacité de faire arriver les choses, ma Bible à moi dit son cœur s'éleva pour les perdre. Et cette phrase est toujours difficile à la lire. La Bible dit, il pécha contre l'Éternel sans Dieu. Et la même main qu'il a élevée, c'est la même main qu'il a abaissée et frappée. J'aimerais dire, faisons attention à Dieu. Je crois à la grâce. Mais je ne connais pas la limite entre la grâce et la justice de Dieu. Je me suis rendu compte dans la trentaine d'années que j'ai dans la foi, et bientôt quasiment 27 ans dans le ministère, plus Dieu se révèle en vous en gloire et en majesté, plus il sera exigeant envers vous. Étonnant de voir cet homme qui a fait changer d'avis Dieu à quelques reprises. Dieu décide de frapper, de détruire le peuple d'Israël. Et Moïse se tient entre Dieu et les besoins des hommes. Il met même son éternité en jeu. Pardonne leurs péchés, sinon efface mon nom du livre de vie. Étonnant, ma Bible à moi dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Mais lui-même, le jour il va au-delà de ce que Dieu a voulu. Au lieu simplement de parler au rocher, il a frappé. Dieu dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Je suis étonné. Moïse revient parler. C'est lui-même qui relate ça dans Deutéronome. Il dit, Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. Il a fait changer d'avis Dieu pour les problèmes des autres. Pour sa condition, Dieu dit, c'est réglé, il n'y a plus rien. Et Dieu, pour lui faire mal, lui fait simplement monter sur la montagne et lui fait voir ce qu'il aurait dû palper et toucher, qu'il ne touchera pas. Comment ce Dieu peut, par l'intercession de Moïse, passer outre les fautes du peuple? Et là, il décide de les frapper sans sursis. Seigneur, garde-moi de me jouer de ta grâce. Du reste, la Bible nous enseigne que la vraie grâce nous apprend à craindre Dieu et à nous éloigner du mal. Et nous avons montré les raisons qui faisaient que plusieurs n'arrivaient pas à gérer la gloire. Aujourd'hui, nous allons aborder les deux autres maladies et nous allons conclure. Lisons 1 Samuel chapitre 2. Verset 12 à 17. Verset 22. Et puis verset 27 à 33. Pour faire l'économie du temps, je vais lire simplement en français. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient. C'était une habitude. Même avant qu'on fît brûler la graisse Les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de trois points la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22, « Il y était fort âgé. » Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 27, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices, mais retenez bien, consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Tu es en train d'abroger quelque chose qu'il avait placé. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent plutôt seront méprisés. Voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte que tu n'y auras plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis que Israël sera comblé des biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Verset 33, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, et là il voulait parler de Samuel, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Ils mourront dans la force de l'âge. Nous lisons deux Pierre. Chapitre 2, verset 14. Et nous partons du verset 14 au verset 17. 2 Pierre, chapitre 2, 14e verset au verset 17. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. La quatrième maladie que nous voyons en ces jours, c'est la maladie des fils d'Élie 2. Et cette maladie, c'est l'absence de sens du sacré. L'absence de sens du sacré. Les passages que nous avons lus de 1 Samuel 2 nous relatent quasiment en quatre temps les tristes récits qui démontrent non seulement la présence de ces mâles dans les chefs de ces jeunes gens, mais aussi l'attitude de Dieu ou la réaction de Dieu devant cet égarement. Les versets 13 à 15, ainsi que le verset 22 qui nous parle de ce qu'il faisait dans la tente d'assignation, nous fait ressortir cette attitude et ce comportement déviant. Comportement difficile à comprendre. Comportement qu'on ne peut expliquer. Qu'on ne peut expliquer pour quatre raisons. On s'est dit sûrement, si ce comportement doit être là, Parce qu'il y a absence d'enseignement. Or, ils avaient un père sacrificateur qui, au-delà du service, enseignait. S'ils étaient sacrificateurs, c'est qu'ils devaient avoir commencé à être entraînés quand ils avaient 13-15
ans.
Parce qu'on ne devenait jamais sacrificateur avant l'âge de 30 ans. Ils ont dû sûrement être enseignés sur ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Deuxième raison qui rend incompréhensible ces comportements, on peut supposer l'absence des modèles. Mais Élie n'est pas blâmé. Parce que lui aussi était sacrificateur. Ce qui montre ce que eux faisaient, Élie ne le faisait pas. Comment ils peuvent voir leur père faire autre chose, se comporter autrement et eux avoir ces comportements défiants? La troisième raison qui peut sûrement justifier, c'est qu'il y avait un mépris volontaire. Une décision délibérée d'agir d'une certaine manière. La quatrième raison qui rend incompréhensible. Certains disent qu'ils étaient l'objet d'un envoûtement. Une force spirituelle était en train de les contrôler. Cela me fait penser à la déviation des Galates, qui avait reçu un merveilleux message de la bouche de l'apôtre Paul, mais qui se sont démarqués de ce message en 180%. Et quand l'apôtre Paul leur écrit dans Galates 3:1, il dit: Galates dépourvus de sens, qui vous ont sorcellé? Notre version française courante dit: qui vous a fasciné? Mais l'original en grec et même les versions anglaises disent: qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils pouvaient changer jusqu'à ce point. Ça, c'est le premier mouvement. Attitude et comportement de ces jeunes gens. Mais deuxième étape, et ça m'étonne, c'est le verset 15 qui nous les montre. Quelque chose d'étrange, mais quelque chose de glorieux aussi. Alors que les dirigeants ont un comportement déviant, les dirigeants connaissent la norme. Et non seulement qu'ils connaissent la norme, ils rappellent à la norme les dirigeants. Remarquez, quand ces hommes viennent offrir, les fils d'Élie veulent prendre avant que le sacrifice soit consumé. Écoutez ce que ma Bible a moi dit. Dans Samuel 2,
Samuel
au verset 16, un homme à qui on réclamait la viande avant que cela soit cuit. L'homme leur disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Parce qu'il connaît la norme. C'est comme ça que ça se passe. Dieu a permis que ça soit à vous. Mais avant que ça soit à vous, ça doit d'abord lui être offert. Et il venait et disait: non, nous voulons ça maintenant. Une étude de Lévitique 3. 1 à 7 et Lévitique 7 verset 28 à 37, nous montre deux principes. Premièrement, il y avait des morceaux spéciaux et spécifiques que Dieu avait donné au sacrificateur comme droit d'onction. Le temps me manquerait de parler de l'épaule et de toutes ses parties. Dieu avait dit: c'est pour les sacrificateurs. Mais deuxièmement, il y avait un ordre établi. D'abord, offrir. Que ça puisse être cuivre. Le feu de Dieu tombait dessus. Ça brûlait. Et ce n'est qu'après que vous pouvez vous en servir. L'histoire montre qu'il n'y avait pas de façon de brûler standard.
Il
semble que 9 fois sur 10, les sacrifices étaient totalement brûlés, il ne restait que des cendres. Et si par grâce Dieu décidait que ça ne brûle pas beaucoup, on pouvait récupérer un peu de la viande après puis on mangeait. Ces jeunes gens disaient Dieu mange trop. En plus c'est du gaspillage. Nous voulons consommer à la place de Dieu. Si vous offrez que ça devient à nous, il n'y aura rien de reliquat. Nous voulons avoir la chair. Ils veulent corriger un principe établi par Dieu. Ça aurait été bien qu'ils retirent la part de Roland
Dallo.
Mais ce qu'ils retiraient, c'est la part du Créateur. Celui qui a créé toute chose. Celui qui a établi ce principe. Pas de sens du sacré. C'est à Dieu, mais nous le prenons. C'est à Dieu, mais nous allons prendre quand même. Troisième étape.
Verset
17. On parle de l'attitude de Dieu devant ses comportements. La Bible dit ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel.
D'un
très grand péché.
Wow,
écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Louis Segond n'en parle pas avec force. Pasteur Ken peut émouver et puis les deux autres, ils peuvent occuper ces deux places. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ça c'est Louis Segond.
Mais
Français courant d'ici.
Si.
Les fils de Eli offensaient gravement. Le Seigneur, car il traitait sans respect les sacrifices qu'on accordait à Dieu. Ils offensaient. Retenez bien ce terme offensé. Les Français courants disent ils offensaient gravement. La version Tob dit ce qu'ils faisaient outrager Dieu. Nouvelle Bible, Second va plus loin. Parle de bafouer les offrandes de l'Éternel. Ces trois termes montrent la gravité de leur acte. Offensé, outragé et bafoué. J'ai essayé dans chacune des versions de la Bible de voir la définition de chacun de ces mots. Offensé cache deux idées. Premièrement, porter atteinte à l'honneur et la dignité de quelqu'un. Deuxièmement, porter atteinte à une chose respectée et digne de considération. Et c'est Dieu qui déclare, il dit, m'ont offensé. Ils ont porté atteinte à mon honneur. Deuxième terme, outragé. Outragé, c'est faire subir des dommages à ce qui est respecté. Et ces dommages sont en acte et en parole. Ces dommages abaissent, blessent l'amour propre et l'ego. L'humilient. Troisième mot, bafoué. Traité avec un mépris et une dérision exagérée. Quelqu'un. C'est-à-dire aller au-delà des limites du tolérable. Mais l'idée qui est cachée, c'est que c'est fait volontairement. Et c'est Dieu qui parle de cet acte. Il me bafoue, il m'offense. Quatrième étape. Verset 29 à 33. Pour montrer la gravité de l'acte, on voit les sanctions que Dieu propose. Simplement parce qu'on a pris ce qu'on n'aurait pas dû prendre. D'abord, il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Ainsi que mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Une autre version du français qu'on dit, pourquoi traitez-vous sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonnées? Une autre version parle de piétiner. Et la fourchette allant du verset 30 au verset 33 nous montre la virulence du verdict. Dieu comme un juge président assis sur son trône en session extraordinaire
et
la Cour suprême dont sans possibilité d'appel, verdict, peine capitale avec exécution immédiate parce qu'ils ont touché ce à quoi ils ne devaient pas toucher. Il dit, voici le temps arrive. Il
ne
dit pas, ils seront retranchés. Il dit, j'ai retranché. L'acteur, ça serait moi. Je retrancherai ton bras et les bras de ta maison. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Verset 33, Dieu veut faire mal. J'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut te déclasser, il prendra des suppléants. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel l'un des tiens. Et là il pense à Samuel. Pourquoi je vous détruis, je les laisse? Un cheval non partant, quelqu'un qui a été greffé à votre famille, vous l'avez vu venir. Il dit, afin de consumer vos yeux et d'attrister votre âme, vous montrer que je peux abaisser qui je veux et élever qui je veux. Quelques jours après, Ophni et Pinéas sont morts le même jour. Et Élie leur père est mort aussi à l'annonce de cette nouvelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, et vous qui nous suivez au travers de quelques médias, vous qui êtes avec moi dans les sacerdoces, j'aimerais dire, dans les sacerdoces, il y a des choses sacrées. Quand je dis sacré, j'ai trois idées selon la parole de Dieu. Sacré veut dire des choses qu'on doit regarder et traiter avec respect. Deuxièmement, parler des choses sacrées, c'est parler des choses mises à part, écartées, séparées de la liste commune des choses. Troisièmement, parler des sacrés, c'est parler de ce qui mérite un traitement différent et spécial à cause de leur caractère spécial aussi. Quand on parle du sacré, le sacré s'oppose à trois choses. Premièrement, le sacré s'oppose à l'ordinaire. Le sacré s'oppose à ce qui est banal. Et le sacré s'oppose à ce qui est commun. Et par rapport au sacré, j'aimerais juste mentionner quatre choses que, hommes de Dieu, nous devons savoir. Quand je dis nous, moi y compris, je me parle aussi à moi-même. La première des choses, l'argent de Dieu est sacré. Homme de Dieu, l'argent de Dieu est sacré. L'argent de Dieu, son utilisation sont sacrées. Les choses saintes, il faut le traiter saintement. Ne vous amusez jamais avec l'argent de Dieu. Il y a des hommes aujourd'hui, l'argent que les hommes et les femmes viennent mettre dans les paniers, après un séminaire, après une activité comme celle-ci, c'est le même argent que tu utilises pour aller payer ta facture de prostituée. L'argent de Dieu, cette maraîchère qui travaille à pépinière, à la sueur de son front, elle a travaillé 6 mois. Elle a eu des rougeurs. Elle est venue arroser chaque fois. Après avoir récolté, elle gagne 200 000. Elle sait que ça ne lui suffit pas pour les besoins de la maison. Mais elle honore tellement Dieu. Elle dit les 20 000, malgré les besoins de la maison, c'est pour Dieu. Et elle vient déposer dans les paniers. Et toi, tu prendras ça et tu iras donner à Ewasso sur l'avenue de la justice. L'argent de Dieu. Sacré. Ce que les hommes et les femmes versent ici. C'est ce qui te fait acheter des vodka et des whisky. On me parlait d'un homme de Dieu. Après une grande activité, plein de rentrées, il dit à sa femme, il va en recueillement au grand hôtel. 5 jours, 5 prostituées. L'argent qu'il utilisait pour louer les chambres, c'est l'argent à la sueur des fronts des croyants.
Mbongo o azosela pona kozwa esika kosela mabena e ezali na mbu na motoki ya banzimi.
L'argent qu'il paiera à ces femmes légères, c'est l'argent de ces personnes qui craignent Dieu. Le même Dieu qui a frappé le fils d'Eli. Si tu ne te répands pas, fera la même chose. C'est avec cet argent que tu achètes des cassettes pornographiques. Supposé homme de Dieu. J'ai jamais oublié. Mon pasteur m'a dit un jour que quand ces 3 filles grandissaient, elles ont connu des chocs dans leur croissance chrétienne. Elle m'a dit, durant plusieurs années, ils avaient l'habitude d'aller en vacances à
Mwanda.
Un jour du mois de juillet, ils sont allés comme d'habitude. Premier jour, deuxième. Au troisième jour, quelqu'un vient lui dire, Pasteur
Jacques,
tu n'as aucune idée. Chaque soir vers 18h, quand tu vois telle fille, je n'aimerais pas la citer ici. Disparaître, elle vous dit qu'elle va où? Non, elle va faire un tour à la plage. Non, elle n'est pas à la plage. Elle va dans une discothèque qu'il y a ici.
Le
feu pasteur ne m'a dit jamais. Il y a 7h, elle est dans la discothèque.
Il
m'a dit de toute ma vie, c'est la première fois que je suis rentré dans une discothèque. Non pas pour danser, mais pour vérifier quelque chose.
Du
reste, quand je voulais rentrer, on m'a demandé de payer. Je fais même office de violon, je poussais quelqu'un. Il dit qui je vois sous les lumières, les
roboscopes.
Je vois ma fille en train de danser. Quand elle m'a vu, c'est comme une cassette, on a fait pause. Il dit, j'ai rien dit. Il dit, Roland, j'ai marché en pleurant. Seigneur, garde nos enfants. Du Roland, je suis allé dans le véhicule, j'ai dit j'ai échoué dans mon éducation.
Elle
est rentrée. Je voyais combien elle tremblait. J'arrivais pas à dire un mot.
Il
dit, on a roulé 10 minutes jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Je lui ai simplement posé une question. Tu es entré gratuitement là-bas où tu as payé. Elle a dit j'ai payé. Il dit, avec quel argent? Il dit, l'argent des poches que tu me donnes. Je
n'ai
jamais oublié. Il m'a dit, je lui ai dit, cet argent est teint de sang.
C'est
de l'argent maculé de sang. Il dit, chaque mois des fermiers dans des villes aux États-Unis cotisent pour soutenir la mission. Certains se privent de certaines choses pour la mission. Il dit, tu aurais dû prendre un autre argent. Si c'est ce que je t'ai donné, c'est maculé de sang. Lui-même, il a dit un jour, il dit, je vis ma fille pleurer de 20h jusqu'à 6h du matin. Il dit, Roland, je peux le dire sans crainte de me tromper. J'ai la certitude que c'est ce jour-là que ma fille est réellement née de nouveau. Car nos enfants, quelquefois, naissent et grandissent dans une ambiance sans quelquefois faire des expériences réelles. Homme de Dieu, l'argent de Dieu est sacré. C'est pourquoi j'ai pitié des membres des protocoles qui volent l'argent des offrandes. J'espère qu'il n'y en a pas à
Philadelphie.
Dans une église pas très loin d'ici, des assemblées de Dieu. On a attrapé un papa. 50 ans d'âge quasiment. Et c'est Dieu qui a voulu qu'on l'attrape ces jours-là. Un homme a fait une belle affaire. Il a amené le dîme de $8,000. Il a remis dans une grosse enveloppe kaki. Déposé dans les paniers. Il est parti à la fin du premier culte auquel il a pris part.
Mais
arrivé, s'est rendu compte qu'il a oublié sa Bible. Il dit, il doit revenir chercher sa Bible. Et quand il revient chercher sa Bible, on dit non, toutes les histoires oubliées, ça se trouve là où on fait les comptages. Et quand il arrive, il trouve que le comptage du premier culte est fini. Simplement, il lance, il dit, ouh, j'espère qu'aujourd'hui il y a eu de bonnes entrées. Ah, celui qui dirigeait dit, oh, pas beaucoup, hein. Les offrandes ont avoisiné les $1,500. Mais les dîmes,
1,500.
Il a dit non. Les dîmes minimales aujourd'hui, ça devait être 8,000.
S'il
y en a peu, ça devait être 8,000 au moins, ma dîme. Il a appelé le pasteur, dit, il y a quelque chose d'anormal. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas enlèvement de dîmes avec la trompette qui sonne simplement pour que les dîmes aillent à la rencontre du Seigneur. Le pasteur s'apprêtait quasiment à faire les annonces. Et il est revenu, il a dit, voilà ce qui s'est passé, c'est moi qui ai déposé la dîme. Le pasteur a dit, vous tous, je vous respecte. Mais à 7h, chacun de vous devient suspect. Frère, personne ne bouge, on va vous contrôler. Et on soulève le costume rouge de ce papa. La grosse enveloppe était là. Non, j'avais tellement de problèmes à la maison. Quand j'étais à la borne, on a arrêté quelqu'un. On lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je suis lévite, en tant que lévite, j'ai pris ma part. Mais prends-la officiellement. Quand le comptage finit, viens dire, vous avez oublié un lévite. Ne le prends pas par toi-même à notre insu. J'ai parlé avec un ami. Ils avaient un homme qui était caissier à l'église. Et il ne voyait rien. C'est qu'il ne savait pas que chaque mois il soutirait. Il a envoyé 4 de ses enfants en Europe. Mais après 6 ans, Tous les quatre arrêtés en prison. Il a acheté trois grandes maisons.
Et
trois de ces maisons se sont écroulées. Et lui-même a attrapé une maladie. Il a commencé à pourrir aux orteils. C'est quand c'est arrivé là qu'il a dit appeler le pasteur. L'Esprit de Dieu me dit, je ne dois pas mourir avec ces secrets. Pasteur, voilà ce que je faisais. L'argent de Dieu est sacré. Seigneur, aide-nous à les gérer avec crainte et tremblement. Et les hommes de Dieu que nous sommes devons les savoir. Mais j'aimerais dire aussi, le lieu de culte et les endroits où nous recevons sont sacrés. Les bureaux des pasteurs sont devenus des hôtels, des endroits d'immoralité. Il a une chaise, il a une table, mais il a aussi un lit derrière. Au-delà des entretiens, il va avec les jeunes filles. J'ai appris un homme de Dieu, veillée de prière, avant la veillée, il va avec une choriste. Sans crainte. Il va dire des choses sacrées. Il va tenir un livre sacré. Il est dans un endroit sacré, comme la présence sacrée de Dieu.
Mais
il n'a pas le sens du sacré. Homme de Dieu, les lits conjugaux sont sacrés. Les lits conjugaux sont sacrés. Malheur aux hommes de Dieu, j'en ai appris. J'aimerais te dire en lingala, si tu as des
tatouages,
ne viens pas le faire dans les lits conjugales que tu partages avec ta femme, tu auras Dieu en face.
Si tu as été tatoué pour faire l'adultère, ne viens pas le connaître dans les lits conjugales parce que yango ebulisama na Nzambe.
Dis-le encore si tu es.
Si tu as été tatoué pour faire l'adultère. On t'a tatoué. Si tu ne le fais pas, tu ne te sens pas à l'aise.
Ma Bible m'a dit. Et c'est le Dieu de la Bible qui parle. Hébreux 13, 4. Que les lits conjugales soient honorés. De tous. Même des pasteurs. Et Dieu ajoute. Qu'ils soient exempts de toute souillure. Car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Sur les lits où Dieu a consacré que tu puisses être en intimité avec ta femme, tu amènes la petite soeur de ta femme. Tu amènes la bonne. Madame est en voyage, tu amènes la secrétaire de l'église. Les responsables de la chorale. Pas de sens du sacré. Quatrièmement, vivre dans l'infidélité malgré l'engagement sacré et rompre sans raison valable les liens sacrés du mariage. Aujourd'hui même dans l'église, les hommes de Dieu n'avons plus le sens de la parole donnée. Que des hommes qui bénissent des couples, qui les appellent à s'attacher l'un à l'autre en ayant l'un et l'autre seulement comme partenaires jusqu'à ce que la mort leur sépare. Alors qu'il appelle les autres à tenir un engagement sacré dans la masse à part sa femme, il y a une avec qui cligne des yeux.
Léger.
Les liens du mariage est sacré.
Libala ezali boule.
Tu peux les briser loin du regard de ta conjointe, de ton conjoint, loin du regard de ton pasteur, mais Dieu voit.
Okoye kobuka yango libanda mosika ya molongani na yo ya mobateli na yo kasi Nzambe azomona.
Car le Dieu de la Bible
est capable
de voir une fourmi noire assise sur un rocher noir dans la nuit la plus sombre. Proverbe 20, verset 25 dit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Aujourd'hui, dans l'église du Congo,
les
divorces sont devenus monnaie
courante.
Autrefois, le divorce était un problème des bancs. Aujourd'hui, le divorce a touché la chair. Qui se marie, qui divorce, qui se remarie. Qui redivorce, qui se remarie. Redivorce,
remarie.
Plus de sens du sacré. C'est pas la femme du ministère.
Elle
n'a pas le sens de l'œuvre de Dieu.
Elle
n'a pas la même vision que moi. Je laisserai le micro. J'inviterai le grand frère Job ici. Il va nous enseigner. Malgré que lui était spirituel, sa femme était charnelle jusqu'à la moelle épinière. Pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurs. Est-ce que Job a divorcé? Non, elle n'a pas le sens des choses de Dieu. Non, elle ne voit pas les choses de la même manière que moi. J'aime souvent dire quand j'irai au ciel, parce que j'y serai. Je chercherai en premier à voir celui qui m'a sauvé. Après lui, je chercherai à voir deux personnes qui sont mes héros. Je chercherai à voir Paul, mon exemple, mon modèle. Et puis après, je chercherai à voir David qui a marqué ma jeunesse. Mais juste après, je chercherai
Adam.
J'irai le saluer. Je lui dirai comme chez nous en Geba: Adam, toi tu es un bacala.
Adam, toi tu es un vrai homme.
Parce que la plupart d'entre nous, si on était à la place d'Adam, le premier divorce aurait eu lieu au sorti du jardin d'Éden. Il était bien quand il était seul. Et Dieu lui a donné une femme. Et c'est cette femme qui allait manger les fruits. Et qui l'a influencé. J'aurais été Adam quand Dieu nous a chassés du jardin d'Éden en plaçant les chérubins. On sortirait seulement du jardin. Je dirais à Ève: moi dans moi, non.
Que chacun prenne sa propre route.
Dis-le bien.
Que chacun prenne sa propre route.
Maman, Nazalaka bien.
Oh maman, j'étais très bien.
Regarde ce que tu m'as apporté.
Mais
écoutez ce que ma Bible à moi dit. C'est pas le Coran. Après qu'on les ait chassés, Genèse 4 et 1 dit: Adam connut Ève, sa femme. Où est le sens du sacré? J'ai entendu un homme qui priait:
Seigneur, si tu m'aimes vraiment, reprends ma femme.
Des prières que le Dieu de la Bible que je sers n'exaucera jamais. Même si elle est aux soins intensifs, elle va ressusciter. Et cet homme disait à son ami: en attendant que Dieu exauce la prière, j'ai déjà fait les choix au cas où Dieu exauce. Avez-vous entendu parler de ce pasteur qui va demander la main à une jeune fille: le jour où ma femme va mourir, c'est toi qui vas remplacer Rukou Fate?